avec le Centre africain d'études supérieures en gestion, le CESAG, ou l'émergence de talents au service de l'Afrique.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Alors que le chômage recule légèrement en France, l'emploi des seniors reste à la peine. C'est le sujet de notre jour aujourd'hui, le chômage des seniors. C'est vrai que le taux d'emploi des plus de 50 ans en France reste l'un des plus bas d'Europe. Alors pourquoi les entreprises ne veulent plus de salariés à partir d'un certain âge, alors que précisément la durée de vie augmente et que l'allongement de la carrière professionnelle apparaît inéluctable? Nous allons en discuter avec nos invités. Margot Gilquin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en liaison avec nous de Bordeaux grâce aux moyens techniques de France Bleu Gironde. Vous pouvez nous dire déjà, Margot Gilquin, pourquoi vous avez quitté la région parisienne et où vous vivez aujourd'hui ?
Alors, j'ai quitté la région parisienne parce que je n'avais plus d'emploi, que je ne pouvais plus faire face à un loyer. Je ne voulais pas me retrouver à la rue. Ça, c'est ma peur la plus grande et je l'ai toujours. Et je suis donc hébergée chez quelqu'un qui, en échange de menus travaux et qui me permet de reprendre confiance en la vie.
Vous avez 55 ans, vous avez été licenciée à 48 ans par une entreprise qui vous avait pourtant employée pendant 10 ans. Et depuis, effectivement, vous êtes en recherche d'emploi et vous publiez surtout Le Dernier Salaire, dans lequel vous racontez votre histoire, mais aussi celle de milliers de personnes comme vous. Oui. Mélissa Petit est également, dans le studio à Paris. Bonjour Mélissa Petit.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes sociologue, spécialiste des seniors, fondatrice de Mixing Generations, cabinet d'études spécialisé sur la longévité et les seniors. Et vous conseillez aussi les recruteurs, ça ne doit pas toujours être très facile.
Non, pas toujours, mais c'est surtout comment leur amener le changement de pratique.
Oui, et de mentalité. Oui. Benjamin Zimmer est également avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondateur et directeur de la Silver Valley qui regroupe les entreprises qui vendent des produits et des services aux retraités. C'est un secteur qui pèse déjà assez lourd sur le plan économique.
Plusieurs dizaines de milliards d'euros.
Oui.
Et ça va continuer avec évidemment le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes âgées.
Quelle relation finalement avec les seniors qui ne sont pas encore à la retraite mais au chômage ? Quel lien vous établissez-vous avec les seniors au chômage ?
Alors c'est un effet, on va dire, collatéral de notre organisation. De plus en plus en fait d'entreprises naissent et on a constaté que les meilleurs vendeurs étaient des seniors. Parce que pour parler et vendre des produits à des retraités, il faut encore avoir en face de soi un commercial qui puisse bien comprendre leurs besoins et leurs attentes. Et généralement, ce sont aussi des personnes d'un certain âge.
Margot Gilquin, je pense que vous aurez des questions à poser à Benjamin Zimmer.
Oui, volontiers.
Et chez vous, les voisins, dans votre pays, est-ce difficile de retrouver du travail après 50 ans ? L'âge est-il, selon vous, un critère aussi important que la compétence et le comportement au travail ? Bien sûr, nous attendons vos témoignages si vous vous sentez concerné par le sujet et vos points de vue. Notre numéro de téléphone est toujours le même, 33 1 84 22 71. Et bien sûr vos messages sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Sur Facebook, je vous lis quelques points de vue, témoignages. Ça sent un peu le conflit de génération. Ce sont surtout des jeunes qui nous écrivent. Moussa est à Kaolack au Sénégal. Il nous dit « La jeunesse chez moi n'a pas d'emploi, alors je pense qu'il faut leur faire une place sur le marché du travail plutôt que de penser aux seniors. » Voilà, le point de vue de Moussa est cash. Amadou, à Dakar, au Sénégal, nous dit Amadou, ce sont les vieux qui travaillent, les jeunes qui chôment. Ici, on commence à travailler à 35 ans, quand on est déjà vieux, parce que les entreprises recrutent des candidats qui ont minimum bac plus 5 et 5 ans d'expérience professionnelle. Rolly, lui, est à Douala, au Cameroun. Moi, je suis chômeur, alors que mes deux tontons, déjà à la retraite, sont rappelés pour piloter les nouveaux projets mis en place par leur ancienne entreprise. De mon côté, j'espère être recrutée avant d'être senior. Oui, ça laisse perplexe. Hein.
Oui, je trouve que ça laisse perplexe, mais malgré tout, il faudrait ne plus aller dans une guerre de génération et un fossé générationnel et ne plus opposer le partage du travail, mais véritablement se dire que sur le marché de l'emploi, il y a la place pour tous les âges.
Et ceci dit, les jeunes aussi sont à la peine pour trouver du travail en France, hein, d'ailleurs.
Oui, aussi, hein, malgré tout, il y a quand même aussi un chômage des jeunes et qu'il faut aussi encourager l'embauche des juniors tout autant que l'embauche des seniors. Mais on n'a pas forcément la même place et le même emploi.
Je vous lis le message de Marc qui nous écrit de Niamey. Il nous dit « Les seniors sont imbattables lorsqu'il s'agit de l'enseignement, l'agriculture et l'élevage. C'est là où ils pourraient se reconvertir. » Puis il y a le message d'Éléonore à Lomé qui dit « Certains seniors ne veulent pas quitter leur poste, surtout dans le service public. Un service déjà lent, alors imaginez lorsqu'il est dirigé par des seniors. Quand on a une équipe jeune et dynamique, les choses bougent. » Bon ben voilà, hein, les voisins sont jeunes, donc ils voient évidemment midi à leur porte. Ou Ibrahim qui est dans le centre-est du Soudan. Lorsque vous atteignez la cinquantaine, votre patron et vos collègues sont plus jeunes que vous. Vos connaissances et votre expérience pourront leur être utiles pour prendre la relève. Avec votre bagage et votre sagesse, vous êtes leur conseiller. Vous les accompagnez. Osez vous positionner comme le mentor idéal et vous déjouerez les clichés circulant à l'encontre des seniors. Appelez-nous maintenant au 33 1 84 22 71 71. Margot Gilquin, que vous inspirent ces différents témoignages ?
Oh, ça me fait sourire en fait.
Pourquoi
ça me fait sourire? Mais parce que c'est très difficile de
s'imposer comme le mentor des jeunes.
Oui, oui, tout à fait. Enfin, non, moi je... Non, ça me fait sourire, voilà.
Mais je rappelle le numéro de téléphone. Ben oui, en tout cas, on a des points de vue très différents. Et bien sûr, vous nous appelez maintenant en direct, où que vous soyez dans le monde. Il suffit de composer ce numéro. On vous rappelle bien sûr immédiatement. 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins.
On existe ensemble.
Margot Gilquin, vous avez été donc licenciée à 48 ans en tant que secrétaire de direction. Depuis, vous enchaînez les emplois en intérim, les petits boulots, mais surtout des longues périodes de chômage. Vous recherchez un emploi depuis donc plus de 7 ans maintenant, hein ?
Alors, depuis plus de 7 ans, et là, je dirais que la chose s'est aggravée pour moi parce que depuis 2 ans et demi, je n'ai strictement plus rien, sauf que, et ça va rejoindre ce qu'a dit une des personnes là qui vient de parler, un des auditeurs. Là, qui parlait de l'enseignement.
Oui.
J'ai donné pour cette année 120 heures de cours par an. Hein. Mm-hmm. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas embauchée pour travailler voyez, dans une entreprise.
Vous faites du soutien scolaire, c'est ça, par exemple
hein? Non, je forme je forme un public en reconversion, un public parfois de mon âge,
oui,
au métier de secrétaire, au métier de gestionnaire de paye, au métier de...
Un métier pour lequel vous-même, vous ne trouvez pas d'emploi.
C'est, voilà.
Non, mais c'est absolument hallucinant ce que vous nous dites.
Et c'est pourtant véridique. Et je peux vous dire que là, je fais une petite dédicace pour mes élèves que je prépare au BTS. Mardi, c'est la dernière ligne droite.
BTS secrétariat que vous avez passé vous-même sur le tard, d'ailleurs. Hein.
Quasiment, oui. C'est le niveau équivalent au BTS. Hein. Voilà.
Mais que vous disent les gens que vous formez
qui sont très contents de m'avoir.
Oui, mais le fait que vous soyez en chômeuse de longue durée, puisque vous rentrez dans cette case-là aujourd'hui, on est d'accord que là, ces petites heures de formation ne sont strictement rien sur une année de plein emploi. Mais cela suscite-t-il leur inquiétude ?
Non, parce qu'on est dans une région qui est extrêmement touchée. La preuve, les chiffres du chômage là sont tombés aujourd'hui et la Gironde est cruellement frappée. On ne fait pas partie d'un département qui est en hausse au niveau des pour retrouver du travail. Hein. Excusez-moi, je suis un peu troublée là. Et donc non, parce que on est habitué à vivre les uns avec les autres et à savoir dans quelle galère on est.
Est-ce que votre âge, clairement, depuis sur toutes ces années de recherche d'emploi, d'entretien aussi bien au téléphone, d'entretien dans les entreprises, de CV, de milliers de CV envoyés, vous parlez d'une période où vous envoyez plus de 6 CV par jour, hein, c'est ça ?
Ben oui, mais vous savez, 6 CV par jour, c'est rien quand on fait que ça, finalement.
Oui.
C'est 2 le matin, 2 le midi, 2 le soir, ou enfin, la nuit aussi, beaucoup.
Vous racontez que dans Paris, vous photographiez les plaques professionnelles, que dès qu'un patron est recruté, vous dites qu'il va avoir besoin d'une secrétaire de direction et que donc, vous lui envoyez votre CV. Enfin, vous êtes extrêmement active dans votre recherche d'emploi. Oui. Est-ce que vous avez eu le sentiment, au fil de ces années, que c'est d'abord votre âge qui pose un problème aux entreprises ?
Au début, non, c'est pas au début, j'ai eu un problème avec les outils et les codes qui avaient changé, en fait. Moi, j'étais restée sur des recherches d'emploi qui étaient obsolètes et j'ai pas été épaulée. Au tout début, j'ai pas du tout été épaulée, donc j'étais toute seule. Internet, je ne connaissais pas. Et puis, je vous dis, les outils CV, lettres de motivation, les termes aussi ont changé. Je parlais pas ce langage-là. Ensuite, j'ai eu la chance de retrouver donc un emploi. Bon, j'ai été licenciée économiquement pour la seconde fois, donc au bout de 14 mois. Et là, à partir de là, j'avais les outils, j'avais les techniques. Mon entreprise nous a payé, nous a offert un reclassement. Et là, par contre, c'est l'âge qui a été, comment dirais-je, la barrière. Et très clairement, je n'ai plus jamais une seule fois eu de proposition de CDI. En revanche, j'ai eu des CDD, des missions d'intérim. Et on m'a aussi beaucoup demandé de bénévolat.
Mais est-ce que les entreprises disaient pourquoi l'âge était un problème à leurs yeux ?
Non. En fait, c'est ce que j'explique. C'est-à-dire qu'on est entré dans une guerre, mais on ne sait pas qui est notre ennemi. Donc, on ne peut pas offrir de défense. Moi, j'ai entendu une jeune femme recruteuse, je ne sais pas si ça se dit, me dire « Comment je pourrais vous faire des remontrances ? Vous avez l'âge de ma mère. » Une petite jeune femme adorable, comme tout, dans une start-up, m'a dit « On peut vous appeler mamie ?» Bon. Et puis, il y a un recruteur, tout récemment, un monsieur en plus, pas loin de la cinquantaine, qui m'a dit, moi non, je ne peux pas vous recruter parce que clairement, à partir de 50 ans, les neurones, ça ne fonctionne plus de la même façon.
Là on est clairement dans du blocage culturel, voilà. Ou pas, Mélissa Petit ?
Ah oui, totalement. On est dans du blocage culturel, on est dans des représentations qui pèsent fortement depuis des décennies maintenant. Et donc, qui perdure de décennie en décennie, on n'arrive pas à sortir. Alors, je trouve malgré tout qu'il y a une véritable évolution depuis très récemment des mentalités de certains recruteurs, de certains créateurs d'entreprises aussi vis-à-vis de la population. C'est très peu, mais ça commence à évoluer et à changer.
Benjamin Zimmer, sur ces blocages.
J'aurais beaucoup de réactions déjà par rapport à ce qui a été dit par les auditeurs. Je pense qu'effectivement, on est dans un monde de crise. Qui dit crise dit forcément des changements radicaux sur un certain nombre d'outils, de métiers, de compétences. Donc, ce qui fait qu'il y a un peu plus de chômage et il faut croire en l'avenir. Moi, je suis un éternel optimiste. Je pense qu'il y a plein de choses à développer. Effectivement, c'est dur quand on est confronté à ces situations.
Oui.
Je pense à vous, évidemment. Mais je pense aussi qu'il y a énormément de règles, notamment dans la comptabilité ou dans le secrétariat, qui ont évidemment changé.
Oui.
Et aujourd'hui, il faut être excellent en informatique. Moi, je recrute des gens. Je ne regarde pas à quel âge ils ont, je ne regarde pas de quelle origine ils sont, je regarde juste s'ils sont compétents par rapport aux actions et aux tâches qu'ils vont devoir réaliser.
Mais ça, c'est le discours que tiennent toutes les entreprises, on peut dire, dans les médias en tout cas, Margot Gilquin, on est d'accord. Seule la compétence prime.
Exactement.
Seule la compétence prime, mais c'est tout à votre honneur ce que vous dites. Mais
ma gestionnaire administrative, elle a 45 ans. Je l'ai recrutée, elle a l'INV 44. Donc j'aurais pu recruter.
À partir de 45 ans qu'on est senior, c'est ça. Vous l'avez recrutée un an avant qu'elle soit senior.
Mais avez quand même, si je peux me permettre, vous avez quand même misé sur l'avenir. C'est Benjamin, votre prénom.
Exactement.
Oui. 55 ans, moi je ne trouve personne qui me recrute parce que dans 5 ou 6 ans, je suis à la retraite. Et un entrepreneur, parce que j'ai croisé plusieurs jeunes entrepreneurs avec qui j'ai passé des moments à discuter, ne recrute pas quelqu'un de 55 ans.
Parce qu'il a peur qu'il parte.
Mais en même temps, les jeunes, de toute façon, quand on construit une carrière, on sait qu'on change d'emploi quand même tous les 3 ou 5 ans, non ?
Moi, je sais que sur la dizaine de salariés, je sais déjà qu'il y en a un qui part en mars. Je le savais dès qu'il a été recruté il y a 3 ans. Je sais que le turnover est important. Ce n'est pas ça qui me fait peur. Ouais. Ce qui me fait peur, c'est la transmission des compétences.
C'est-à-dire ?
De bien m'assurer que effectivement ce qui a été fait avant soit bien transmis à la personne qui arrive pour que quand elle arrive, elle n'ait pas à recommencer depuis zéro.
Mélissa Petit, il y a une nouvelle baisse du chômage à l'échelle nationale. La France conserve quand même près de 3,5 millions de chômeurs. Est-ce que cette baisse du chômage profite aux seniors ou pas du tout, là ? Quelles sont les tendances ?
Pas réellement, hein. Mais pas réellement sur cette baisse. Et puis elle est pas réellement significative. C'est pas parce que ça diminue un petit peu que faut voir dans la durée. Et c'est la profondeur temporelle qui va nous montrer que il y aura réellement du changement ou pas. On a besoin de cette durée pour voir des évolutions. Mais c'est la baisse du chômage des seniors. Elle n'existera que si il y a des mesures qui sont prises. D'ordre politique, mais aussi des mesures d'entreprise à tous les niveaux, que ce soit les grandes entreprises, les PME, les TPE, voire les start-up. Et juste pour...
Justement, les mesures, il y avait le contrat de génération qui était un des engagements du président Hollande, avec des aides aux entreprises qui embauchent des jeunes et qui maintiennent en même temps dans l'emploi des seniors, justement pour ne pas opposer les générations, des seniors jusqu'à la retraite. C'est un échec. Il y a eu 40 000 contrats signés alors qu'on en attendait 500 000 à l'échéance 2017. Évidemment qu'on ne les aura pas, ces 500 000 à l'échéance 2017.
Non, mais alors le contrat de génération dans l'idée était quand même une bonne idée, j'ai envie de dire. Ce qui est peut-être un peu dommage, c'est la question de l'accompagnement et c'est nécessaire d'accompagner les entreprises dans un management des âges, dans une transmission de compétences. C'est des mesures connexes. On ne peut pas, en fait, quand on parle du chômage des seniors, réellement ne n'appliquer qu'une mesure, mais vraiment en appliquer plusieurs. Et je reviens sur cette idée de aussi changer les mentalités sur l'idée de non, le senior, il est adaptable, il est aussi, il a des compétences analytiques transversales qui vont aussi parler et co-construire avec le jeune qui est dynamique, créatif, etc.
Mais comment se fait-il que la France soit très isolée tout de même avec ce problème-là par rapport au reste de l'Europe, notamment? Est-ce que, je sais que vous connaissez aussi l'Amérique du Nord, en Amérique du Nord, est-ce qu'on observe ces phénomènes de seniors mis en grande quantité comme ça, sur la touche, dès 50 ans?
Alors, ce qui se joue et qu'on n'a pas forcément pour l'instant en France, c'est qu'il y a des problématiques aussi de main-d'œuvre importants dans certains secteurs d'activité, donc de manque de main-d'œuvre. Donc, il n'y a pas réellement cette mise sur la touche. Et puis aussi, ils ont pris des mesures incitatives de levier d'emploi. Ils ont aussi pensé le senior comme un levier de croissance.
Vous pensez à quel pays, par exemple?
Je pense au Canada, oui. Par exemple, ou au Québec, pas forcément l'Amérique du Nord, quoi, pas forcément les États-Unis, parce que c'est un autre système de protection sociale. Et puis, malgré tout, je pense à la Finlande aussi, en Europe du Nord, qui ont su apporter aussi cette incitation.
Pour réagir par rapport au Québec, pour y avoir travaillé beaucoup d'années, il y a aussi une question d'immigration, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont face à plus d'offres que de demandes. Donc, il faut qu'ils pourvoient ces postes et donc ils font appel effectivement à des seniors, ce qui fait qu'on n'a pas ce problème-là en France. Nous, c'est un peu l'inverse. Donc ça, c'est, je pense, aussi un moyen, enfin, un des critères d'analyse. L'autre point, c'est que
Que le besoin en main-d'œuvre en compétences est supérieur, de toute façon, aux personnes qui peuvent pourvoir les postes. C'est
exactement.
Ça.
Et l'autre point, c'est qu'un senior en France, il a aussi un certain nombre d'exigences. Il a souvent acheté un bien, il a donc une localisation, là où un jeune est plutôt locataire d'un appartement et donc plus facilement mobile. Il a aussi d'autres... et donc souvent, quand ce senior a contracté
aussi,
un prêt...
C'est ça, vous voulez parler aussi des exigences salariales, c'est ça? On dit beaucoup qu'en France, le salaire ne décroît pas, alors que dans de nombreux pays, à partir de 45 ans, notamment en Allemagne, le salaire décroît, dur à accepter. Aussi,
pour terminer mon propos, justement, ça, c'est les a priori. Mais je vois de plus en plus de seniors qui sont prêts à avoir un peu moins de salaire, mais juste à avoir un emploi.
Alors voilà, c'est ça que je voulais dire.
Oui, c'est votre cas, j'imagine, Margot Gilquin, évidemment.
Alors, c'est pas seulement mon cas, hein, parce que je ne parle pas que pour moi. Moi, j'ai écrit un livre dans lequel je parle de mon expérience, mais j'incarne aussi les seniors en recherche d'emploi et qui sont dans cette souffrance. Et je croise beaucoup de gens, puisque j'ai une autre action à côté. Donc, je croise beaucoup de seniors. Croyez-moi, j'ai croisé un monsieur il y a 3 semaines de cela. Il a 54 ans, il vit dans une chambre de bonne dans le 10e arrondissement. Il n'a pas hésité à laisser sa maison, ses enfants, sa femme, etc. pour aller prendre cet emploi et vivre dans une chambre de bonne dans le 10e arrondissement.
Un emploi de
Je ne sais plus dans quelle, dans quelle branche il est. Mais en tout cas, c'était dans sa branche. Hein, mais on lui a proposé un emploi. Il n'a pas hésité à tout laisser pour partir.
Ouais, donc, et il a montré qu'il était bien sûr mobile. Vous restez avec nous tous les trois. Suite de notre émission sur l'emploi des seniors, il y a encore beaucoup de choses à dire, à comprendre. Que peuvent-ils apporter aussi aux entreprises? À quelles conditions? Quels sont les exemples dont il faudrait s'inspirer? Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71 pour partager.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, on parle du chômage des seniors. Quelle solution? Nous sommes dans l'un des pays où le problème est le plus aigu, la France, où il existe aussi le plus d'a priori contre les seniors dans les entreprises. Ce ne sont pas seulement des freins culturels, on parlait de la question des salaires. Avec vous, Margot Gilquin, vous publiez Le Dernier Salaire. Vous avez été licenciée à 48 ans. Vous êtes en duplex, en studio à Bordeaux avec nous. Vous racontez votre parcours, c'est presque 8 années de recherche d'emploi ponctuées de petits boulots, d'emplois en intérim, mais plus réellement d'emplois salariés. Mélissa Petit, vous êtes sociologue spécialiste des seniors. Et Benjamin Zimmer, vous êtes cofondateur et directeur de la Silver Valley. C'est ce secteur qui regroupe les entreprises qui fabriquent aujourd'hui et encore plus pour demain les produits et les services adaptés à ces seniors qui sont de plus en plus nombreux. Là, on parle bien sûr de ceux qui sont retraités, dans le grand âge, etc. En une quarantaine d'années, on a gagné quoi ? 10 ans d'espérance de vie, c'est ça ? Tout en perdant à peu près 12 ans de vie professionnelle.
En 40 ans ?
Oui, c'est ça.
Plus le triple.
Encore plus ?
Oui.
Alors, comment va-t-on faire au regard de tout ce que l'on a dit en première partie d'émission? Quels sont aujourd'hui les secteurs aussi où le chômage des seniors est le plus problématique? Mélissa Petit.
Alors, les secteurs, je dirais quand même que c'est déjà les ouvriers. On a quand même aussi des problématiques tout simplement de marché de l'emploi qui est délocalisé. Hein. Et donc, la catégorie ouvrière doit aussi muter et on n'est plus dans les mêmes emplois. Par exemple, pour des personnes qui ont, comme Margot Gilquin, 50 ans, 55 ans et plus, eh bien, dans une même, je dirais, économie que celle qu'ils avaient 20 ans quand ils ont commencé leur carrière professionnelle. Mais bien évidemment aussi, ces problématiques de chômage ne touchent pas que les ouvriers, peuvent toucher aussi d'autres catégories, mais de manière peut-être un peu moins forte, même si ils existent. Et il y a cette question aussi de que font-ils ? Et il y a
C'est ça, on voit bien quand même dans de grandes entreprises aujourd'hui que les plus de 55 ans n'existent plus, alors qu'ils sont censés être encore là jusqu'encore 7 ans, enfin, voire même plus de 50 ans. On ne voit plus de, par exemple, même des cadres, on ne voit plus de cadres de plus de 50 ans dans les entreprises, non ?
Non.
Je pense que c'est vrai dans certaines entreprises. Si vous prenez les entreprises qui sont dans le monde du numérique,
on parle pas des
startups. Si vous prenez les entreprises, non, mais je pense que des entreprises comme Orange, comme Microsoft et d'autres ne sont pas des startups. Mais effectivement, les cadres sont assez jeunes. Là où effectivement, dans des métiers plutôt liés à l'industrie, on va avoir des cadres d'un certain âge. Donc il y a effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous, une absence de seniors dans un certain
Mais
nombre d'entreprises.
Il y en a
malheureusement qui sont au chômage. Je pense qu'il y en a un certain nombre qui sont gentiment remerciés par ces grandes entreprises et ils partent et ils créent des startups. J'en ai rencontré un certain nombre qui le faisaient. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce
que c'est pour les plus diplômés d'entre eux.
Pas forcément, c'est pour ceux qui en veulent peut-être le plus et qui ont été convaincus par une idée innovante parce qu'ils ont été confrontés au quotidien à des problèmes que vivaient leurs parents, voire leurs grands-parents. Moi, j'ai vu un certain nombre de chefs d'entreprise créer leur start-up à l'âge de 55 ans avec un gros chèque qu'ils avaient eu parce qu'ils appartenaient à une multinationale.
Avec un gros chèque, c'est ça. Ouais. Avec un gros chèque.
Quand ils ont 30 ans d'expérience, évidemment, ils ont souvent des stop-options et donc du coup, ils bénéficient de ce chèque.
C'est ça. On parle bien de chefs d'entreprise.
Non, mais ça, c'est pas une généralité,
hein,
Benjamin. C'est pas une généralité. Il y a des tas de gens qui sont licenciés avec le minimum syndical et qui touchent le chômage au bout du délai de carence.
J'ai l'exemple de ma mère. Ma mère a été licenciée à 54 ans. On lui a dit, son patron lui avait dit gentiment, écoutez, je vais me séparer de vous parce que vous êtes la plus âgée. Donc là, c'est très discriminant, je trouve, comme motif. Mais il y avait des jeunes et ils préféraient miser sur la jeunesse. Bon, l'entreprise, 3 ans après, elle a fermé, elle a mis tout le monde à la porte.
Il faut quand même préciser aussi que les salaires sont moins importants aussi quand on recrute un trentenaire. Hein.
Bah, les masses salariales, oui, effectivement, c'est des choses qu'on regarde quand on est dirigeant. Effectivement, quand on est plus jeune, ça coûte probablement moins cher de miser sur un jeune plutôt que sur une personne d'un certain âge. Mais après...
Mais non, oui. Ça non plus. Margot parce qu'il y a des maintenant... Oui, parce que ça aussi, c'est une idée reçue. Parce que par rapport à ce qui est mis en place par Pôle emploi, on peut recruter des seniors dans le cadre d'un CDD senior avec des avantages. Et on demande, vous savez, moi je suis dans la région ici, si on me proposait un salaire ne fût-ce que le SMIC, croyez-moi que je serais heureuse de le prendre plutôt que de vivre avec 16,25€ par jour.
Ça c'est un phénomène qui est probablement plus récent, que les entreprises ont moins intégré, non Benjamin Zimmer? Le fait qu'on a maintenant un chômage massif des seniors qui, évidemment, ont diminué leurs prétentions, évidemment se sont adaptés parce qu'ils comprennent que sinon ils ne pourront pas du tout avoir la durée de cotisation légale pour avoir une retraite.
Oui, ça c'est un vrai sujet en tout cas dans notre filière, c'est que effectivement là on pense que c'est l'Eldorado parce que les gens qui sont nés après la guerre ont souvent eu deux métiers, enfin le couple a eu deux métiers, des retraites à taux plein, des bons salaires, ce qui font que maintenant ils sont propriétaires et ils vont pouvoir acheter des produits et des services. Mais dans 10 ans, malheureusement, les seniors qui sont encore sur le monde du travail et qui sont au chômage ont ces difficultés financières, donc ils n'auront pas de retraite à taux plein. Alors je pense qu'il y a quand même des bonnes choses qui sont en train de se mettre en place. Nous, sur notre territoire, on travaille avec Pôle emploi parce qu'on s'est aperçu que finalement, nos entreprises trouvaient les meilleurs commerciaux, ce sont des personnes qui ont plus de 50 ans parce que généralement, ils ont vécu avec leurs parents des difficultés et ils vont être capables de mieux vendre un produit et un service sans d'ailleurs pour autant chercher à le vendre, mais juste à expliquer à quoi il va servir.
Alors là, on parle bien de services spécifiques, de la silver economy, comme on dit, c'est-à-dire des services pour les personnes âgées ou très âgées. Oui. Alors ça peut être quoi? Par exemple, il y a des entreprises qui recruteraient aujourd'hui des commerciaux de 50 ans et plus pour vendre les fameux téléphones adaptés au grand âge.
Exactement.
Par exemple, ça peut être ça. Qu'est-ce que ça peut être comme métier?
Ça, c'est un exemple. Des commerciaux, de la vente à domicile, vous connaissez sûrement...
Mais si on n'a jamais fait de vente à domicile, si on ne vient pas de cet univers-là, par exemple Margot Gilquin, vous étiez assistante de direction.
Oui, mais moi, je me suis essayée aussi à être auto-entrepreneur.
Ouais.
Après, ça dépend effectivement de la... Comment dirais-je? Du métier. Hein. Maintenant, de la vente à domicile, c'est quoi? C'est de la VDI, c'est ça?
Exactement.
C'est un statut. C'est quoi comme statut?
VDI, qu'est-ce que c'est exactement?
C'est de la vente à domicile. Ouais. C'est ce que ça veut dire. En l'occurrence, on travaille justement à la mise en place de formation parce que... Là, ce qu'on est en train de dire, c'est que finalement, on réfléchit à un instant T, on se dit, il y a un chômage massif des seniors, c'est vrai. Maintenant, comment on fait pour l'éradiquer? Donc, il faut mettre en place des formations et tout ça, ça prend un petit peu de temps parce qu'il faut travailler évidemment avec les organismes de formation, leur montrer qu'il y a des offres d'emploi qui vont être pourvues si on met tel type de formation en place et il faut qu'en face de ces formations, on ait des personnes qui veulent bien participer à ces formations. Donc ça fait beaucoup...
C'est ce qui fait que
le processus
Margot
est long.
Margot Gilquin, est-ce qu'on vous a proposé très concrètement de changer de métier, puisque assistante de direction, c'est vrai qu'à terme, même les patrons ont de moins en moins besoin d'assistante de direction.
Oui, tout à fait.
On est d'accord, avec l'arrivée des nouvelles technologies, on gère soi-même son agenda, etc.
On est d'accord. Bon, moi, je l'ai vu arriver, ça, en plus. Donc,
voilà. Mais
c'est ce que j'enseigne.
Est-ce qu'on vous a très vite proposé une reconversion professionnelle avec une formation solide à la clé?
Alors, très vite, non. Mais depuis que je suis dans la région, je le dis, je le répète, je suis très bien encadrée par le Pôle emploi de Langon, qui fait tout ce qu'il faut pour essayer de sortir de là. Ah oui, tout à fait.
Mieux qu'en région parisienne, vous avez l'air de dire.
Ah oui, alors franchement, là...
Bien que le bassin d'emploi, évidemment, soit sans commune mesure par rapport à la région parisienne.
Absolument. Mais ils essayent vraiment, enfin moi je le dis, j'ai deux conseillères formidables avec qui on essaye vraiment de trouver une solution. Donc on m'a proposé des formations, oui. Donc une formation, j'avais pensé pour être aide à domicile. Simplement, j'ai un problème de santé, j'ai une fibromyalgie. Ça veut dire que je ne peux pas
Vous êtes fatiguée
bouger.
Rapidement.
Alors, c'est pas seulement la fatigue, hein, c'est, j'ai surtout très mal. Moi, j'ai un problème
dans les jambes.
Dans les jambes, musculairement, c'est une horreur. Donc, bon, on n'a pas voulu aller vers ça alors que je m'occupe déjà de personnes âgées et que j'adore ça. On a pensé à ça. On a pensé aussi à faire une formation pour que je travaille dans les vignes parce que c'est un secteur qui me plaît énormément. Je ne peux pas non plus à cause de cette fibromyalgie. Donc, on en revient. Qu'est-ce que je peux faire comme formation à 55 ans?
Et la réponse est
ben, on ne sait pas, on ne trouve pas.
Je pense, mais ça petit. Pense malgré tout qu'on peut quand même trouver, parce qu'il y a toujours une possibilité. Après, et c'est vrai que malgré tout, quand on parle de chômage, il y a cette question de on peut pas, faut changer les choses aujourd'hui, mais aussi sur le long terme. Et que la formation, elle doit aussi parfois arriver peut-être à 40 ans, 45 ans, prendre en considération aussi, et pas forcément...
En amont des difficultés.
C'est exactement ça.
Voilà,
et peut-être ce qu'on oublie aussi dans cette question et ce sujet, c'est le désir à un moment du senior. Qu'est-ce qu'il a envie réellement de faire, vous disiez?
Vous prenez un enseignant qui a 40 ans de carrière, je pense que c'est le cas de mon père, je pense qu'à l'aube là, de sa retraite, ça fait 20 ans qu'il doit s'ennuyer parce qu'il a fait tout le temps la même chose. Et puis plus il vieillit, plus les enfants doivent le fatiguer, ce qui est une évidence. Et effectivement, ce que vous dites est tout à fait juste. Il faudrait que... Alors la formation continue, elle n'est pas très utilisée par les salariés. Elle n'est pas non plus très utilisée par les dirigeants pour faire monter en compétence leurs salariés. Donc il y a un vrai sujet là où... moi, pour avoir étudié au Canada, justement, j'étais assez surpris quand je suis arrivé dans mon doctorat là-bas, de me retrouver face à des gens qui avaient en moyenne d'âge plutôt 45 ans que 25 ans à l'époque. Et j'étais, moi, leur enfant, si vous voulez. Et eux, ils me disaient...
C'est des gens qui repartent sur les bancs de l'université très tardivement, donc.
Qui ont commencé qui ont fait leurs études, qui ont, comme ça, pu acheter leur maison, construire leur famille, et puis, mais tout ça avec une certaine logique de carrière, et sont revenus faire des études à un certain âge pour pouvoir aller plus loin après dans leur carrière, etc.
Ça veut dire qu'on est dans des sociétés comme au Canada, où il y a des dynamiques intergénérationnelles, où tout ça est très enchevêtré, finalement.
Très enchevêtré, beaucoup plus agile, beaucoup plus flexible que chez nous. Et ça, oui, je suis totalement d'accord avec Margot. Moi, je suis pour casser un certain nombre de silos, de barrières, etc.
Mais est-ce que, par exemple, vous faites partie de ces de ce que disent de nombreux patrons en France? Il faut que les Français admettent qu'à partir de 45 ans, le salaire doit décroître, comme par exemple c'est le cas en Allemagne. Pas pour les grands patrons, évidemment, hélas.
Encore une fois, tout dépend de ce que... Parce qu'il faut aussi voir qu'un salarié... Moi, j'ai souvent...
Parce que c'est pas politiquement correct du tout en France, ça, de dire ça.
Non.
J'aime pas ce terme
pas
ressources.
Bah justement, moi je ne considère pas mes salariés comme des ressources humaines, mais comme des potentiels humains. C'est des potentiels, ça veut dire qu'ils sont là pour me faire grandir l'organisation. Donc quand on considère cela comme ça, après on peut avoir un système qui permet d'être bien rémunéré avec des primes, avec des reconnaissances, des montées en compétences. Et donc tout ça, nous, on le met en place. Moi, je pense que je suis un extraterrestre pour un certain nombre de dirigeants.
Mais... Surtout que vous êtes vous-même un junior, pratiquement.
Oui.
Non vous avez moins de 40 ans.
Oui, j'ai effectivement moins de 40 ans.
Vous vous intéressez à l'emploi des seniors.
Bien sûr. Ouais. Et je suis même encadré moi-même
et
par
vous,
des gens qui sont seniors.
Et vous misez là-dessus, finalement.
Ah oui, complètement. Parce que l'expérience est très importante.
Vous restez avec nous. Vous pouvez bien sûr nous appeler, réagir par rapport à nos discussions sur l'emploi, le chômage des seniors. 33 1 84 22 71 71.
Aujourd'hui, on a fêté mon départ. C'était mon dernier jour dans la boîte. J'ai 54 ans et je pars à la retraite anticipée. Aujourd'hui, on m'a dit t'es vénard, t'es encore jeune. Et je constate que c'est vrai et c'est un peu tôt pour me mettre en retrait. Alors je suis pas mort, loin de là, mais bientôt dans les dîners, on me demandera ce que je fais, je dirai moi rien. Puis je rectifierai, non, je m'occupe de mon jardin, de mes petits-enfants, je voyage. J'ai mon train-train quotidien qui consiste à regarder mon naufrage. Pas de boulot, c'est la mort. Pas de déjeuner sans effort, pas de raison d'être dehors. En vacances? Non, non. En désirance d'avenir, y a pas de vacances sans la réjouissance de partir, sans une raison de revenir. C'est remplir mon temps comme je peux, de loisirs et de jeux. J'aimais bien quand c'était 5 semaines par an. Là, je ne vois que des vieux, des chômeurs comme moi. Et mon prochain taf, je sais, sera dans une caisse en bois. Alors je pense à la mort, tout le temps. Pas seulement comme avant, pas parce que c'est la fin. Pas parce que je suis en chien, je pense à la mort tout le temps. Pas parce que dans une bio de retraité, y a rien d'autre qu'un acte de décès. J'ai pas la pêche, t'as compris, j'ai 54 piges et je... Prie pour retrouver une vie en engraissant la française des jeux.
Mmh. Depuis mon annonce de départ déjà, j'ai senti qu'on me mettait à l'écart. Comme une petite blonde conne qu'on me matait comme un produit périmé de peu. Ça peut servir, mais faut le sentir avant. Sinon c'est dangereux. Moi j'avais pas l'étoffe d'un chef, ni d'un indépendant. Pas de métier qu'on exerce jusqu'à la mort en s'éclatant. Moi j'avais des réunions, des collègues, des formations, des atouts, deux trois bonnes blagues, une anecdote qui tue. Et c'est tout, je me forçais pas pour être heureux. Je regardais le temps filer. On vient de me sortir du jeu. De la vie, il me reste qu'un filet.
Française s'inspire elle-même du chômage des seniors, c'est Ben Mazuet, 54 voilà. Ans.
Alors, je suis troublée. Hein.
Oui, ça vous trouble cette chanson, Margot Gilquin?
Je suis extrêmement émue. Alors, sincèrement, vous ne me voyez pas, mais je peux vous dire que je suis extrêmement émue parce que j'ai jamais entendu cette chanson. Mais je trouve qu'elle est, comment dirais-je, mais tellement véridique. Mmh. Et ça rejoint ce que j'écris dans mon livre, Le Dernier Salaire. C'est exactement ça que j'écris. C'est vraiment exactement ça. Mais qu'on nous entende, On n'est pas fini.
Alors justement, est-ce qu'il y a peut-être de l'espoir du côté de cette nouvelle génération, puisque Benjamin Zimmer, vous nous avez parlé de votre mère qui elle-même a été licenciée en tant que senior d'une manière relativement dure. Est-ce que la nouvelle génération qui aura vu ses parents au chômage de façon totalement injuste et bien avant l'âge de la retraite ne sera pas plus sensible, n'aura pas davantage envie de dire stop, là je laisse la parole aux juniors.
Bah, je pense que
Zimmer et Mélissa Petit.
On en parlait tout à l'heure un petit peu avec Mélissa en aparté, mais je pense que nos générations ne connaîtront pas les acquis sociaux de nos parents avec des retraites comme ils ont eu, etc. Donc nous, on est déjà de toute façon dans le changement, quoi qu'il arrive. On a été programmés pour changer.
C'est nécessaire.
Et donc, je pense qu'on regardera effectivement les choses d'une manière bien différente à celles qui sont déjà en place aujourd'hui.
Et puis, je trouve que c'est déjà en train de changer. Quoi, je vois de jeunes start-up créées par de la génération Y qui créent des emplois en embauchant des seniors, des jeunes retraités, qui valorisent leur savoir-faire, d'autres entreprises qui, comme vous l'avez dit, Benjamin, qui embauchent des seniors parce qu'ils ont vu l'intérêt. Donc, voilà, c'est déjà en train de changer, et puis pour la génération Y, hein, qui regarde et qui prennent...
Concrètement, là, des pistes d'entreprises qui voient l'intérêt de travailler avec des seniors, mais quand je dis l'intérêt, c'est pas seulement mercantile, c'est l'intérêt global, humain, etc., de ce qu'ils peuvent apporter à l'entreprise. À quoi vous pensez comme exemple concret, Benjamin Zimmer, hein?
Bah, dans les services à la personne, Margot en a parlé, effectivement,
oui.
Ils recrutent des seniors parce que les services à la personne, 80% du chiffre d'affaires des services à la personne, c'est des retraités. Et les retraités, ils aiment bien parler avec des gens qui leur ressemblent. Donc, c'est plutôt des gens de 50 ans. Et donc, il y a une traction là, en termes d'emploi par rapport à ces services qui est importante. Maintenant, les services à la personne, c'est parfois aussi des métiers qui sont contraignants physiquement. D'où l'intérêt, en fait, de développer aussi des produits et des services.
Avec la robotisation, ceci dit, il y aura de plus en plus d'aide technique. Du coup, ces métiers-là seront moins difficiles aussi dans ces services d'aide à la personne.
Vous avez tout à fait raison. Nous, notre enjeu, ce n'est pas tant de travailler pour des produits et des services pour des retraités, mais c'est également, au sein des entreprises, faire en sorte que le confort du salarié soit amélioré. Et parfois, effectivement, il a un certain âge, le salarié. Donc oui, les aides techniques peuvent faciliter le service rendu. Et plutôt que de donner d'ailleurs une prestation de service avec juste un produit, l'enjeu, c'est de donner du lien dans le service qui est donné avec le client.
À quoi vous pensez, par exemple?
Dans le service à la personne, ce n'est pas juste la réalisation de la prestation qui compte. C'est la prestation plus la relation humaine qu'il y a entre le client et le prestataire qui est fait. Un service de jardinage, l'intérêt du service de jardinage va être fait quand la personne âgée va être présente. Le jardinier va peut-être voir qu'elle a d'autres problématiques et va pouvoir comme ça dire à l'agence avec laquelle il travaille dans les agences à service à la personne que ça serait peut-être bien de regarder un certain nombre de choses. Vous voyez, c'est créer de l'aide humaine. Je vous prends un exemple très concret au Danemark. Il y a un infirmier qui un jour, pour des soucis de rentabilité, en fait, les syndicats infirmiers là-bas se disaient ça serait bien de géolocaliser un petit peu les prestations de services pour optimiser les déplacements et donc réduire les coûts, etc. Ils l'ont fait, ça n'a pas marché, ils n'ont pas gagné plus d'argent. Par contre, ils ont changé complètement, enfin, ce salarié, cet infirmier, a changé complètement sa manière de faire et il a créé un réseau qui s'appelle le réseau Burnstorm au Danemark. Et aujourd'hui, il y a 8000 salariés. Et en fait, ce qu'ils ont démontré, c'est qu'on pouvait faire la prestation et en plus de ça, apporter encore plus de services à la personne. Alors, bon, on est loin des sujets, mais ce que je veux dire, c'est que dans les services à la personne, il y a encore des opportunités d'emploi assez intéressantes. Et je pense que Margot, même si c'est difficile, il faut toujours croire en vos capacités, en vos compétences. Et un jour, tôt ou tard, ça vous sourira.
Mélissa Petit,
ah oui, je vais avoir 56 ans dans une semaine, Benjamin. Un jour, c'est quand ?
Ah bah, je pense que c'est dès maintenant.
Déjà, envoyez-moi votre CV. Moi, je vais essayer de vous le transmettre à des dirigeants d'entreprise.
Parce que moi, j'ai rencontré quelqu'un, par contre, il n'y a pas très longtemps, qui m'a redonné le goût de comment dirais-je, qui m'a redonné l'espoir avec
des mots simples. De quelle façon,
simples.
Margot ?
Eh bien, c'est quelqu'un qui a sorti un livre qui s'appelle... Enfin, je ne sais pas si je peux citer son livre à l'antenne, mais c'est quelqu'un d'extrêmement humain qui nous apprend un petit peu à déjouer certains pièges et à retrouver confiance en nous.
Mmh. Donc une forme de coach, finalement.
Une forme de coach et je peux vous et qui parle notre langage. Je suis vraiment navrée, hein, mais qui parle le langage pas seulement des seniors, hein, mais des gens qui sont vraiment en bout de course.
Vous le dites dans votre livre, en fait, ce que vous voulez, c'est un emploi, un patron, des collègues, un téléphone qui sonne et du boulot.
C'est aussi ce qu'évoque le chanteur. Là, tout le monde n'a pas l'âme d'un entrepreneur. Tout le monde n'a pas l'âme de créer quelque chose. Alors, ça se saurait. Hein.
Mélissa Petit, du côté des entreprises avec lesquelles vous êtes en relation, qu'est-ce qui est en train de changer ? Qu'est-ce qui bouge ? Qu'est-ce que vous essayez de faire bouger avec ces entreprises ?
Ce que j'essaye de faire bouger, c'est vraiment leur montrer l'intérêt de l'embauche du senior, mais qui passe pas par seulement, je dirais, l'embauche, qui passe aussi par, comme l'avait dit Benjamin, sur les conditions de travail. C'est-à-dire que...
L'aménagement des conditions de travail,
oui,
par exemple ?
L'aménagement des conditions de travail, à la fois sur du confort de poste, mais aussi sur adapter et flexibiliser ces conditions de travail. Je pense tout simplement à pouvoir faire du télétravail, parce que y a différentes problématiques qui peuvent se jouer à 55 ans et plus, ou 50 ans et plus, qui ne se jouent pas à d'autres. Et donc voilà.
Mais par exemple, dans le télétravail, les entreprises, là aussi, dans ce secteur-là, ont ce racisme anti-senior.
Et ils peuvent l'avoir aussi. Mais en fait, si vous voulez, parce que c'est nécessaire, comme l'a dit Margot Gilquin, les liens sociaux sont nécessaires à un moment donné. Donc c'est à certains moments...
Dans le télétravail, il faut surtout aller très vite.
Hein. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'à certains moments, on est en entreprise. Et quand je parle de télétravail, c'est juste tout simplement faire une journée par semaine à son domicile. Vous voyez ? C'est-à-dire que aujourd'hui, avec Internet et l'informatique, on peut très bien ne pas être 5 jours sur 5 à son poste de travail et pouvoir aussi être dans son environnement personnel.
Mais vous, c'est pas ce que vous recherchez. Ceci dit, Margot Gilquin, c'est pas ce que vous recherchez, un emploi.
Si, moi... Ça ne me dérange pas de faire du télétravail, mais ça, c'est pas c'est quelque chose de nouveau. Et c'est pas ça.
Je vous donnais un exemple parmi d'autres.
C'est un exemple. C'est une piste, mais ça, ce sont des pistes qui ont déjà été, identifiées, qu'on a essayé de suivre. Moi, je pense aussi qu'au-delà de tout ça, il faut que l'État aide les entreprises à embaucher des seniors. Il faut se renseigner sur les autres pays, pourquoi les autres pays peuvent embaucher des seniors. Peut-être tout simplement parce que les charges ne sont pas aussi élevées.
Bien sûr qu'il y a les charges qui sont peut-être
Oui, c'est évidemment que les charges sociales pour l'entreprise sont importantes. Il faudrait peut-être les réduire. Alors, je ne suis pas sûr qu'il faille stigmatiser en disant qu'un senior, ça soit moins. Mais après, il faut comparer aussi ce qui est comparable parce que Je veux dire, quand on regarde ce qui se passe à l'étranger, les gens n'ont pas forcément des emplois à taux plein.
Je suis d'accord, donc, ça, Benjamin.
Aux États-Unis, moi, j'ai vu plusieurs fois des papis de 85 ans porter mes courses. Je trouvais ça complètement ridicule.
Qui cumulent plusieurs emplois.
Parce qu'eux, ils n'ont pas la sécurité sociale, ils n'ont rien du tout.
Non.
Et pour répondre aussi à votre question, madame, je pense à Margot, justement. Nous, on travaille avec Pôle emploi, avec une organisation qui s'appelle FACE, et on essaie justement de...
Agir contre l'exclusion, notamment pour les seniors.
Pour les seniors. Et on travaille justement à redonner de la confiance, avant de retrouver du travail, surtout retrouver de la confiance pour des personnes qui sont chômeurs de longue durée, de plus de 50 ans. Et c'est pas beaucoup, mais c'est pour ça qu'il faut être optimiste. Mais ça s'est quand même concrétisé derrière, après un mois de mise en contexte dans l'entreprise, de se lever le matin, d'aller travailler, etc., par des embauches.
Margot Gilles,
Benjamin. Je l'ai fait. Moi, j'ai fait une EMT. J'ai travaillé 15 jours pour une entreprise à 55 ans. J'avais un tuteur. Le tuteur était rémunéré, pas moi. Je me lève tous les matins à 6h30.
Ça ne débouche pas sur de l'emploi.
C'est ça le problème.
À la lumière de votre expérience, de tous ceux aussi que vous représentez, d'ailleurs.
On est vraiment nombreux.
Qu'est-ce que vous demandez aux politiques et aux entreprises, finalement?
Déjà, ce que je demande aux politiques, c'est...
Vous avez rencontré Myriam El-Khomri, d'ailleurs.
J'ai rencontré Myriam El-Khomri. Voilà. Et là, je demande un entretien avec le président de la République parce qu'on a créé, nous avons créé quelque chose qui commence à prendre de l'ampleur parce qu'on ne va pas, rester comme ça. On ne mettra pas un genou à terre. Qu'est-ce qu'on va faire des quinquas entre maintenant et l'âge de la retraite?
C'est intéressant ce que vous dites. Finalement, le débat, ce n'est pas tant la retraite, c'est surtout que vous puissiez travailler. Donc, je pense que
On veut travailler. On veut travailler. On veut même bien faire plusieurs employeurs. Moi, j'ai vécu en Angleterre. Je suis prête à faire plusieurs employeurs. Je suis prête à travailler chez moi. Je suis prête à prendre n'importe quel type de contrat. J'ai simplement besoin de ne plus vivre avec 16,25 € par jour.
Ce qui est votre cas aujourd'hui.
C'est tout. Mais oui, c'est mon cas.
En tout cas, voilà, je crois qu'on a bien déconstruit le mythe du problème de la non-flexibilité des seniors qui ont envie de travailler. Merci à vous, Margot Gilquin, d'avoir participé à l'émission.
Beaucoup.
Vous publiez Le Dernier Salaire, c'est vous qui avez écrit le livre, puisque vous avez malheureusement beaucoup de temps pour ça. En tout cas, il est passionnant, ce bouquin.
J'ai pas beaucoup de temps, je l'ai écrit en 10 jours et 10 nuits.
Ça a été vraiment d'un seul jet, d'une seule traite, aux éditions XO. Oui. Merci beaucoup, Mélissa Petit, sociologue, spécialiste des seniors. Vous avez publié aussi un ouvrage sur les retraités chez l'Harmattan. Benjamin Zimmer, cofondateur et directeur de la Silver Valley. Merci à toute l'équipe. Demain, 7 milliards de voisins, nous parlerons éducation, comme chaque vendredi, avec ces nouvelles écoles de codage informatique en Afrique. À demain.
C'était 7 milliards de voisins avec le CESAG, l'institution de formation en management sous tutelle de la BCEAO.